Vous n'avez rien contre les omelettes ?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui,
tout, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh bon, non, merci. Vous pouvez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good.
Si vous vous êtes déjà baladé dans les recettes de Marmiton, vous avez sûrement en tête les commentaires hilarants d'internautes qui expliquent avoir juste changé un ingrédient par un autre. Genre, sympa cette recette de quiche Lorraine. J'ai juste remplacé la pâte brisée par des crêpes et les lardons par des aubergines. C'était délicieux. Alors que cet épisode sort, nous sommes en confinement depuis plus de 3 semaines. Et personnellement, même si j'adore cuisiner et qu'au début je trouvais ça rigolo de devoir aussi gérer le repas du midi au lieu de casser la croûte dehors, eh bien je dois dire que manger ailleurs que chez moi commence à sérieusement me manquer. Parce que ce qui est agréable avec le fait d'aller dîner chez ses proches ou au resto, c'est aussi le côté cuisine élaborée par quelqu'un d'autre. C'est sans doute pour ça qu'en ce moment, j'aime autant ouvrir mes livres de recettes et les suivre à la lettre. Ça me donne le sentiment d'exécuter la partition de quelqu'un d'autre, et donc de m'inviter dans un autre univers. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Longtemps, j'ai été incapable de suivre une recette de bout en bout. À chaque fois, mon envie de faire un pas de côté prenait le dessus, un peu comme s'il fallait forcément changer un truc dans la marche à suivre pour que cuisiner soit un moment créatif. En discutant de recettes chez Nouvelles Écoutes, on s'est aperçu qu'il y avait clairement 2 équipes. D'un côté, celles et ceux qui adorent ne pas les respecter, et de l'autre, les bons élèves, parfaits interprètes de mélodies écrites au préalable. En deuxième partie d'épisode, je suis allée à Bruxelles à la rencontre de Old Boy, un bistrot lancé par 2 copains eurasiens, John Prigogine et Xavier Chen, qui avaient envie de créer un lieu proposant une cuisine traversée par différentes influences asiatiques et des produits belges. Je me suis entretenue avec les 2 chefs, Alexander Duke et Sylvain Classe, et ensemble, on a parlé de l'inventivité et de l'improvisation en cuisine.
Et il ne faut pas avoir peur de la simplicité, parce que très souvent, on a cette idée que compliqué, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a des techniques, en cuisine française par exemple, c'est très symptomatique, il y a des techniques hyper compliquées qui ont des rendus excellents, mais parfois juste une coupe simple avec 2 légumes qui se marient bien et un assaisonnement simple mais efficace.
Mais avant ça, faute de pouvoir lui rendre visite en Suisse, j'ai skypé mon ami Fabien Goubet. Fabien est journaliste à la rubrique Science du journal Le Temps. C'est lui qui, il y a plusieurs années, m'a donné envie pour la première fois de vraiment suivre une recette à la lettre. Un jour, alors qu'on était chez lui à Lausanne, il nous a servi le ragoût de courge à la sicilienne de Jamie Oliver. C'était délicieux et ça fait aujourd'hui partie des plats que je fais chaque hiver. En regardant la recette de près à l'époque, j'ai compris que certaines étapes étaient cruciales dans l'obtention des saveurs explosives du plat. C'est un constat que je me suis de nouveau formulé en découvrant certains plats d'Ottolenghi dont la puissance passe par la combinaison précise entre 2 épices et 1 herbe aromatique en particulier, pas une autre. Reste que chez moi, les livres de recettes sont plutôt rangés dans le salon. Chez Fabien, ils sont pleins de tâches et traînent souvent dans la cuisine. J'ai donc commencé par lui demander pourquoi ces bouquins avaient une telle place dans son cœur et dans sa façon de faire à manger.
Déjà, comme tout le monde, les livres de recettes de cuisine, c'est une source d'inspiration parce qu'il y a toujours des jours où on baisse un peu les bras, on se dit « oh, je ne sais pas quoi faire ». Voilà, donc ça permet d'avoir de l'inspiration. Et puis, moi, je les suis, ces recettes, parce que voilà, il n'y a pas que la cuisine comme une espèce de processus artistique, etc. Moi, la cuisine, c'est quand même un truc très concret. Il faut manger tous les jours, il faut que ce soit un bon moment. Et donc, ça demande beaucoup d'organisation, les courses, le rangement, la préparation, le nettoyage, etc. Et puis, donc, du coup, le fait de suivre les recettes, ça me permet de m'organiser beaucoup plus facilement, de savoir ce que j'ai dans le frigo, dans les placards, etc., ce que j'ai prévu dans les prochains jours. Et puis, c'est du moins pour mon mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi que d'improviser tous les jours et de faire avec ce qu'il y a dans le frigo, quoi, sous la main.
Est-ce que ce que tu dis est particulièrement vrai en période de confinement ?
Alors oui, en ce moment, c'est clair que, en tout cas, moi, j'ai pas spécialement envie d'aller dans les supermarchés 3 fois par jour parce que j'ai oublié un oignon ou un truc. Donc, je fais des courses pour, là, je peux te dire, mes dernières courses, je sais pas, j'ai prévu pour à peu près 5-7 jours, je pense. Donc, ça fait une dizaine de recettes, peut-être un peu moins. Et du coup, voilà, je fais une liste, j'ai ma petite appli, j'ai une petite liste où je mets à peu près jour après jour ce que je compte faire à manger, j'ai une appli pour faire la liste de courses, j'achète tout, je vérifie ce que j'ai dans mes placards avant, et puis en principe, quand je reviens, j'ai tout ce qu'il faut pour tenir 7 jours sans avoir à ressortir, acheter des produits frais, quoi. Normalement, tout est prêt. Donc, c'est clair qu'en période de confinement, bah là, voilà, j'ai tous mes légumes, j'ai tout, là, j'ai tout ramené hier, je suis tranquille, quoi.
Mais donc, au-delà de cette possibilité, du coup, de faire des listes de courses très précises à l'avance, parce qu'on pourrait aussi se dire que tu pourrais faire ça avec des plats qui seraient un peu des plats basiques. Tu pourrais te dire, par exemple, là, demain, je vais faire des pâtes au pesto. Donc, il me faut des pâtes, il me faut du pesto. Et puis là, ensuite, je me ferai un gratin de légumes. Donc, je vais acheter tel ou tel légume. Pourquoi, quel est le plaisir vraiment que tu tires dans le fait de suivre la recette, une recette élaborée par quelqu'un ?
Bah, tu vois, là, par exemple, hier, j'ai fait des lasagnes. Et donc, on les a goûtées hier avec Anne-Cécile. Et puis, j'ai suivi la recette d'un bouquin qui est assez connu, qui s'appelle La cuillère d'argent. Donc, je pense que je te l'avais déjà montré. Hein, c'est un énorme bouquin de cuisine qui doit en être à sa 50e ou 60e édition. Ouais. Italien. C'est pas que de la cuisine italienne, il y a beaucoup de cuisine italienne, mais c'est un peu le livre en caricaturant de la ménagère italienne, un peu à l'ancienne, mais il y a beaucoup de classiques et je l'aime beaucoup ce livre. Et puis du coup, j'ai dit tiens, je vais faire la recette de lasagne de la cuillère d'argent. Et c'est une recette voilà simple, carrée. Je l'ai faite, j'ai subi, et voilà, j'ai eu aucun problème à la faire. C'était assez plaisant à faire. Et quand on a goûté les lasagnes, on s'est dit mais nom de Dieu, c'était hyper bon, je me réjouis déjà de les remanger ce soir parce que j'en ai un énorme plat sur 5 étages là. Et franchement, je disais, mais quel besoin j'aurais de la modifier celle-ci parce que c'est une recette hyper classique qui est trop bonne comme ça, j'ai pas envie de la faire autrement. Hein. C'est des lasagnes, voilà, sauce tomate avec de la passata, de la viande hachée, une béchamel, du parmesan, enfin, c'est parfait. Et puis, pour moi, c'est clair que je suis content de me dire, je sais faire. Ce classique de la cuisine italienne que tout le monde aime, et puis je sais faire des vraies lasagnes comme dans la cuillère d'argent. Donc pour moi, c'est important de connaître les bases, les classiques. Quoi.
Oui, donc en fait, suivre une recette, ça permet aussi de hyper bien exécuter de façon la plus optimale un plat qui a été pensé à un moment, à un instant T par quelqu'un. Là, par exemple, est-ce que si tu avais pu faire cette lasagne sans suivre de recette, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou à côté de quoi tu serais passé, tu penses, si tu n'avais pas eu la recette de la cuillère d'argent sous les yeux ?
Là, comme ça, je me dis qu'il y a peut-être un truc que j'aurais fait différemment, c'est que je suis plutôt habitué quand je fais des sauces tomates à les faire avec des tomates pelées en boîte, hein, surtout l'hiver. Voilà, il n'y a pas de bonnes tomates, donc je cuisine avec ce que j'ai. Et puis en fait, là, la recette t'indique de faire ça avec de la passata, quoi, donc du coulis. Et donc j'ai fait ce qui était indiqué, ce qui n'est pas spécialement dans mes habitudes, si tu veux. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment beaucoup plus malin parce que comparé aux lasagnes que j'avais pu faire avant, elles étaient beaucoup moins sèches, la texture est bien meilleure. Et je pense que c'est simplement l'aspect, enfin, il y a plus d'eau dans la passata et c'est plus une texture de liquide et de coulis. Et ça convient mieux dans les lasagnes. Donc, tu vois, là, typiquement, je me suis dit, je suis content de l'avoir faite et puis d'avoir compris quelque chose. C'est aussi d'ailleurs un autre aspect, je pense, de pourquoi j'aime bien suivre les recettes, c'est que j'aime bien comprendre les choses quand je les fais. Il y a beaucoup de choses qui ne sont absolument pas expliquées dans les livres de cuisine. Et puis d'essayer de faire de suivre les recettes, j'arrive un peu mieux à les comprendre.
Et est-ce que tu as d'autres exemples de cas comme ça, de trucs, de recettes dans lesquelles c'est important de comprendre un peu ce qu'on fait ?
Alors là récemment, enfin l'été dernier, j'ai acheté un barbecue, un gros barbecue à charbon de bois, et c'est clair que je me suis rendu compte que c'était hyper important de comprendre ce qu'on fait et de suivre les recettes et les techniques, ne serait-ce que pour comprendre comment marche ton barbecue. En fait, on fait tous des barbecues, puis bon, alors un des côtés sympas du barbecue, c'est que tout le monde peut en faire, on fait un feu, on met des trucs dessus, ok. Mais en fait, si tu regardes vraiment les gens faire un barbecue, tu te rends compte avec horreur qu'ils font n'importe quoi 9 fois sur 10, les gens. Personne n'a idée de la température qu'il y a au-dessus de sa grille, de la circulation de l'air, de où est-ce qu'on met... quel type de viande, est-ce qu'on va le mettre plutôt à chaleur directe, plutôt à chaleur indirecte, est-ce qu'on couvre, est-ce qu'on découvre, enfin, en fait, les gens font n'importe quoi, et puis, c'est un peu au petit bonheur la chance, est-ce qu'on va manger une semelle ou est-ce qu'on va manger une saucisse pas cuite, c'est un peu la loterie. Alors qu'en fait, le barbecue, c'est une voilà, c'est une des plus, bah, c'est grillé avec du charbon de bois. Hein. C'est peut-être la plus ancienne technique de cuisson que l'homme connaît. Et en fait, moi, j'ai acheté des, je voulais comprendre. J'ai acheté des bouquins, j'ai acheté des, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé de comprendre les techniques. Il y a plein de techniques de cuisson différentes dans le barbecue qui t'aident. Il faut comprendre, bah, comment tu génères de la chaleur, comment circule l'air dans ton barbecue, où est-ce que tu vas placer tel type de viande. Là, par exemple, j'ai fait une côte de bœuf la semaine dernière. Bon, la côte de bœuf, c'est pas une pièce que tu as envie de foirer, quoi, tu vois. Donc, il faut comprendre de quel type de cuisson elle a besoin. Et puis, bah, voilà, là, j'ai suivi la recette de mon bouquin de barbecue qui a dit, t'allumes, tu montes à chaleur très fort, donc à peu près 250 degrés. Tu laisses ton charbon en tas au milieu. Tu mets ta côte de bœuf dessus, environ 6-8 minutes, selon le poids, hein, je crois que c'était. J'ai fait ça, et puis je crois même que j'avais mis une sonde, hein, parce que pour être sûr de la température de la viande. Et puis après, tu finis la cuisson en écartant ton charbon de bois sur les côtés du barbecue, tu laisses ta côte de bœuf au milieu. Puis ça, ça fait qu'elle cuit un peu comme dans un four, quoi, avec de l'air chaud qui tourne autour, mais pas de la chaleur directe en dessous de la côte de bœuf. Donc tu commences par la saisir, puis par la cuire à la chaleur environnante, et ça, j'ai suivi ça à la lettre. Je peux te dire que la côte de bœuf que j'ai sortie du four, elle était parfaite. J'ai envoyé les photos à tout le monde, les gens bavaient, quoi, hein. Donc c'est clair que c'est un très bon exemple de l'importance de comprendre ce qu'on fait et de suivre vraiment une technique expliquée par des gens qui savent faire, quoi.
Est-ce qu'il y a des livres de recettes en particulier que tu suis, de chefs en particulier?
Alors, ben oui, c'est clair. Moi, je pense que je suis venu à la cuisine avec les bouquins de Jamie Oliver. J'en suis un peu d'autres aussi, mais c'est, ça fait partie. Dès qu'il sort un bouquin, je l'achète. C'est un cuisinier qui m'inspire et qui me donne envie de cuisiner chaque jour depuis voilà, vraiment très longtemps. Donc, c'est hyper important. Puis c'est aussi, comme ces recettes sont très bien pensées, ludiques, très bonnes, etc., c'est vraiment réalisable par n'importe qui. Il y est pour beaucoup dans le fait que je suive beaucoup les recettes, parce que ces recettes, tout simplement, quand tu les suis, elles sont top, quoi. Tu manges bien et puis tu t'es amusé à les faire. Donc, il y est pour beaucoup là-dedans.
Il y a un truc que je t'entends souvent dire quand on parle de cuisine ensemble, et là tu viens de le faire aussi, tu dis ludique, on s'amuse bien. En fait, j'ai l'impression que tu as besoin aussi que... Enfin, tu ne fais pas juste une recette avec en tête l'idée que ça va générer un très très bon plat. Tu as aussi envie de t'amuser en cuisine, tu as aussi envie que ça te divertisse et de faire des trucs cool, quoi, des trucs rigolos, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Alors, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu exagéré de dire ludique, rigolo, mais il y a, enfin, encore que c'est un peu un côté ludique, je trouve qu'il y a toujours... Moi, ces recettes, quand je les fais, puis pareil, quand je les, aussi bien dans ces bouquins que quand je les regarde en vidéo, il a ce côté, il donne hyper envie de les faire. T'as hyper envie de mettre les mains dedans, de sentir, de faire aussi. C'est vraiment le pote qui t'apprend à faire à manger, qui t'inspire. Et ça, pour moi, c'est assez important. C'est vrai que quand je tombe sur des recettes, ce qui peut, par exemple, dans le bouquin dont je parlais avant, La cuillère d'argent, qui est un peu plus comme ça, c'est un peu un bouquin à l'ancienne, les recettes sont très sèches, impersonnelles, il y a beaucoup de termes techniques dedans. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, quoi. Quand on utilise des termes de cuisine, il y a tout un jargon, c'est un peu difficile à comprendre, s'il faut regarder trois définitions avant de faire la recette, ou voilà, c'est un peu moins drôle. J'aime bien qu'il y a, quand il y a ce côté, oui, un peu fun. Et je pense que ça, les anglo-saxons sont très bons pour faire ça, beaucoup plus que dans le monde francophone.
Il y a un truc avec Jamie Oliver que j'aime beaucoup, c'est vrai, c'est la façon qu'il a parfois de, je sais pas, de prendre des herbes aromatiques et de les jeter comme ça sur son plat. Il y en a un peu partout ensuite. Il cherche pas forcément bien viser ce qu'il y a sur sa planche, ou beaucoup de choses se passent avec les mains, comme ça, à main nue, quoi.
Ah ouais, je pense que c'est pour ça aussi que ces recettes sont un peu ludiques. C'est un peu ça appelle un peu à l'enfant qui est un peu en nous, quoi, tu vois, d'aller mettre ses mains. Moi, d'ailleurs, ma mère, qui c'est elle qui m'a fait découvrir Jamie Oliver, mais elle n'a jamais fait de recette de Jamie Oliver, parce qu'elle me disait toujours, bon, je regarde vite fait ce qu'il fait à la télé, mais moi, je trouve, oh, il met ses mains partout, il dégouline, c'est pas propre et tout ça. Elle trouve ça nul. Et moi, au contraire, je trouve ça hyper marrant, quoi, d'aller prendre des tomates, d'y aller avec les mains. Et puis ça, justement, ça devient assez intéressant, quoi.
Oui, c'est vrai. Il a tendance à souvent, même quand il fait mariner des choses, bien malaxer les produits, la pièce de viande. Enfin, il y a vraiment ce truc de les mains sont très présentes, quoi, dans l'affaire.
Et en même temps, il y a une explication. Enfin, souvent, ce qu'il dit, ce qui est vrai, et moi, ce que je fais dans mes recettes, quoi, hein, c'est que bah, voilà, quand tu commences à masser les choses, que ce soit, je sais pas, moi, une salade pour mettre un peu de, enfin pour bien tout imprégner de sauce ou une viande que tu veux faire mariner, il faut pas juste poser les choses dessus puis attendre que la magie se fasse. Je pense que tu vois, il faut, si tu veux faire quelques petites entailles puis un peu masser les choses, tu sens un peu les choses, tu fais rentrer les ingrédients dans la viande, enfin ta marinade dans la viande, etc. Et puis non seulement donc c'est amusant à faire, mais en plus je pense qu'il y a quand même une explication. Ça rejoint peut-être ce qu'on disait avant sur la compréhension, c'est qu'on comprend pourquoi on fait les choses en fait. Donc quand c'est amusant et en plus qu'on comprend pourquoi on fait les choses, puis que quand on mange c'est bon, je pense qu'on peut se dire qu'on a quand même pas mal compris la recette, quoi.
Bah, du coup, toi, t'es vraiment la personne qui m'a motivée à suivre une recette de bout en bout. Et donc, du coup, c'était la recette de Jamie Oliver, celle du ragoût de courge à la sicilienne. Parce que avant ça, j'étais plutôt du genre à m'inspirer un peu des recettes et ensuite, toujours à un moment, me dire je vais twister ça. On me dit de mettre telle épice. Non, je vais plutôt mettre cette autre épice. Et je réalise, en fait, je l'ai surtout réalisé en goûtant le ragoût de courge à la sicilienne préparé par toi, que parfois, c'est important quand même de respecter les étapes très précises, parce que c'est ça qui va donner aussi le goût très subtil que le chef aura peut-être eu en tête en écrivant cette recette. Et quand je pense au ragoût de courge à la sicilienne, je pense par exemple à une des toutes premières étapes de la recette qui consiste en fait à cuire, à l'étouffer les tiges de coriandre avec les épices. Et ça, typiquement, c'est pas un truc que j'aurais inventé toute seule. Donc, c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant avec les recettes, c'est faire des choses qui n'appartiennent pas à ton patrimoine culinaire habituel, à tes habitudes de famille. En fait, tu acceptes dans ces moments-là de sortir de ta zone de confort.
Typiquement, ce coup de couper les tiges et tout, quand on cuisine, il faut essayer de ne pas gaspiller. Donc, on peut faire quelque chose des tiges, faisons-le. Et puis, c'est quelque chose que tu peux transposer aussi dans d'autres recettes. Où tu vas commencer, à faire une sauce tomate au basilic, et puis tu vas dire, je vais faire comme dans la recette du ragoût sicilien, je vais le faire avec le basilic, je vais couper les tiges, je vais les mettre dedans, et puis tu vas commencer ta sauce comme ça. Mmh. Et puis là, t'auras aussi appris quelque chose et intégré. Alors, tu te seras certes un petit peu écarté de la recette, mais c'est parce que t'en auras suivi une avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas non plus être trop rigide sur ses positions.
Oui, bien sûr. Donc, du coup, suivre une recette, ça peut permettre aussi d'agrandir son répertoire de techniques en cuisine.
Ouais, je pense que c'est clair. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la compréhension. Moi, j'ai besoin de comprendre. Quand je comprends quel type de feu il faut utiliser, quel type de cuisson il faut utiliser, et quelles sont les conséquences, les résultats de différents essais, je trouve que ça permet de progresser et puis de mieux comprendre ce qu'on fait. Ce que des vrais cuisiniers professionnels apprennent de toute façon à l'école, je pense. Au début, on leur dit pas « allez-y, inventez des trucs, ça c'est à Top Chef ». Je pense que tous ces chefs qu'on voit, ils apprennent déjà à faire des recettes, des bases, des techniques. Et puis, c'est qu'après que tu peux inventer et innover. Moi, ça fait vraiment des années que je cuisine. Chaque année, je me dis « tiens, je vais essayer d'innover un peu, de faire des choses moi-même. En fait, je le fais jamais. Et puis, ça me va très bien de suivre les recettes et puis d'acheter des bouquins de cuisine chaque année, quoi.
Mmh. Ouais. Et est-ce que tu as aussi des recettes de famille, peut-être des choses que tu continues à faire, des recettes que tu suis mais que tu ne trouves pas dans des livres de recettes écrits par des chefs que tu apprécies?
Moi, ma recette un peu Madeleine de Proust, c'est la purée de pommes de terre de ma grand-mère, quoi. On vient du Pas-de-Calais, beaucoup de l'amour et des bonnes pommes de terre et tout. Donc, puis c'était le plat que ma grand-mère faisait tous les mardis, etc. Donc, c'est clair que, bon, ici, j'ai du mal à trouver quand même des très, très bonnes pommes de terre comme dans le Nord, mais c'est pas une recette que je vais trouver, qu'on va trouver. C'est la recette de ma grand-mère et je lui ai demandé plusieurs fois. J'ai déjà filmé quand elle faisait sa purée, etc. Donc, maintenant, je sais bien la faire et puis je la fais comme elle, quoi.
En parlant de Jamie Oliver, tu m'as raconté tout à l'heure aussi qu'il y a un livre en ce moment qui t'est particulièrement utile de lui en temps de confinement.
Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est son avant-dernier bouquin, je crois. Il doit être il y a 2 ans. Il s'appelle 5 ingrédients. C'est vraiment un des meilleurs, si ce n'est le meilleur qu'il a fait. C'est pensé pour les gens qui cuisinent tous les jours en rentrant du boulot, etc. C'est une super bonne recette, mais à chaque fois, comme son nom l'indique, il n'y a que 5 ingrédients. Bon, évidemment, il ne compte pas le sel, le poivre et l'huile d'olive, hein, parce que sinon, on bouffe toujours la même chose, mais ça marche hyper bien. Les recettes sont délicieuses et ça permet vraiment bien de s'organiser et de pas passer 2 heures aux courses, parce qu'avant il y avait aussi des recettes qui me demandaient beaucoup plus d'ingrédients, puis en fait je mangeais bien, etc., mais enfin si c'est pour passer 1h30 au supermarché tous les jours, voilà, ça me saoulait aussi. Donc là on fait les courses beaucoup plus vite, on les fait moins, on les fait plus vite, et c'est aussi que quand t'as que 5 ingrédients, c'est beaucoup plus facile de suivre la recette à la lettre.
Est-ce que tu peux nous parler de certaines des recettes dans ce bouquin alors que t'as pu faire dernièrement?
Filet mignon avec de la purée, c'est servi avec du jambon, en fait, qu'on fait une espèce de jambon italien, là, du prosciutto, là, qu'on fait revenir un peu dans la graisse du filet mignon, et dans lequel on ajoute des feuilles de sauge entières qui deviennent un peu comme des chips craquants de sauge. Et puis après, donc on a un plat avec de la purée, on pose le filet mignon dedans, ces petites feuilles de jambon avec les feuilles de sauge, et puis on finit tout ça au four. Et ça, pareil, je crois que j'ai dû citer les 5 ingrédients. Là, non, il y a peut-être un peu de fromage, ça va être ça le 5e. Et puis ça, c'est hyper bien. Puis c'est un plat que j'ai déjà fait plusieurs fois quand j'avais de la famille ou des amis qui venaient manger. Puis tout le monde se dit « Oh là là, cette recette, c'est hyper bon, c'est vraiment la recette familiale et tout. » Dit, bah ouais, c'est tout simple, c'est 5 ingrédients et c'est un truc qui m'a pris une demi-heure.
Ce que je trouve drôle avec le fait que Fabien respecte autant les recettes, c'est qu'on peut considérer que cet état d'esprit minutieux va de pair avec son job de journaliste dans une rubrique science. Moi qui suis plus freestyle, à côté je serais peut-être plutôt un farfadé ou une farfadette qui joue du flutio en dansant dans des chaussures à grelots. À part pour les recettes familiales, que je prends souvent soin de bien respecter par profond désir de restituer exactement le goût des plats de ma mère, bien sûr. Après avoir discuté avec quelqu'un qui aime suivre les recettes et qui, vous l'aurez compris, est absolument fan de Jamie Oliver, j'ai voulu donner la parole à des gens dont le métier est de prendre des recettes traditionnelles pour leur tordre le cou à des fins créatives. À Bruxelles, la cantine rock'n'roll All Boy cherche à prendre le meilleur des traditions asiatiques pour le mélanger au culot de la modernité belge. Le tout en se réclamant de la pâte Mission Chinese Food qui remue la scène culinaire asiatique aux États-Unis. J'ai demandé aux chefs Alexander Duke et Sylvain Klass ce que voulait dire l'expression « cuisiner rock'n'roll ».
Je pense qu'avant tout, une cuisine rock'n'roll, c'est une cuisine qui ne va pas se borner à respecter des règles parce qu'il y a des règles à respecter. Donc, je pense que l'idée derrière ça, c'est que vraiment, si on a envie de faire quelque chose, on va le faire. Et on ne va pas s'empêcher de le faire parce que ce ne serait pas respecter une recette traditionnelle ou parce que ce serait utiliser un produit d'une manière détournée. Ça, c'est peut-être justement ce qui nous intéresse. Et je pense que c'est ça le côté rock'n'roll, à mon avis.
Tu penses que c'est là que se loge la créativité en cuisine ?
Je pense que l'idée de la cuisine maintenant moderne, c'est justement, c'est pour créer des choses, il faut aller à l'encontre de ce qui était créé avant nécessairement. Sinon, on répète ce qui n'est pas forcément mauvais en soi. Mais si on veut inventer de nouvelles choses, il faut forcément aller à l'encontre des règles, ou en tout cas des règles ou des recettes, effectivement.
Est-ce qu'on peut donner alors des exemples de trucs hyper symptomatiques justement de cet état d'esprit rock'n'roll à votre carte ?
Bah, par exemple, c'est vrai qu'on en parlait là la dernière fois, il y a une recette très simple et très traditionnelle qui va être un curry rouge, par exemple, donc une pâte de curry à base de lait de coco, qui en général se fait avec très souvent du poulet, avec un certain nombre de liquides. Ça, c'est une recette traditionnelle, poulet au curry. Et l'idée derrière ça, de se lâcher, de faire quelque chose de rock'n'roll, ça va être de prendre la même base, donc un produit. Le produit, ça va pas être la recette, ça va être vraiment la pâte de curry rouge, et à partir de cette pâte de curry rouge, elle va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire peut-être l'ancien chef, donc Alan, lui faisait par exemple un curry monochrome rouge. Il partait de l'idée d'un visuel, donc une assiette toute rouge, avec des légumes rouges et des produits fin rouge-orange, et du coup il utilisait cette pâte de curry pour son goût, parce qu'elle allait bien avec des éléments, mais aussi parce qu'elle apportait autre chose. Donc là, on sort complètement des chemins traditionnels et on va vers quelque chose de nouveau, que le produit n'a jamais connu non plus.
Et vous avez des exemples aussi de plats qu'on réalise de telle ou telle façon et vous, vous avez décidé de faire la même chose mais avec un autre ingrédient ou alors de sauter une étape.
Ça, c'est sur l'ancienne carte. On avait des choux de Bruxelles avec une sauce. Donc ça, il y a deux choses. Il y a l'idée que voilà, on travaille le choux de Bruxelles qui est un produit très local, qui va être poché de manière un peu traditionnelle comme on fait d'habitude et ensuite de le détourner, de le braiser. Donc le sauter, le braiser un petit peu, qu'il soit même un peu brûlé, pour donner ce petit goût de barbecue qui se retrouve beaucoup dans la street food asiatique très souvent, et de l'accompagner d'une sauce qui était une sauce qui est traditionnellement, la sauce Kanka, qui est traditionnellement utilisée pour le poulet. Et donc voilà, c'est vraiment la tradition. Une sauce pour le poulet, un ingrédient local, et de mélanger les deux et de se retrouver avec un plat qui est complètement nouveau et des saveurs nouvelles.
Et puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment être aventureux et accepter de casser tous les codes pour ne serait-ce que même inventer donc ce truc que vous avez à la carte, les raviolis donc au boudin noir. Ça, c'est un exemple typique en fait de votre approche.
Bah, je pense que c'est vraiment typique parce que tu vois le boudin, c'est un truc typiquement belge et on essaie de accompagner ça avec un truc asiatique, donc du coup le wonton. Donc qu'on a fait frire et du coup c'est une fusion entre la cuisine belge et les produits belges et du coup les wontons, ce qui est asiatique. Et c'est que je pense qu'on peut faire avec pas mal, avec beaucoup de produits, combiner les deux et comme ça faire des beaux plats fusion asiatique belge. Parce que voilà, la base elle est thaï, on a une base thaï chinoise, mais quand même on essaye de goûter partout et utiliser des produits partout un peu locaux, surtout locaux. Voilà.
Et alors du coup, cette inspiration asiatique, ça veut dire que vous puisez dans beaucoup de types de gastronomie asiatique différentes?
Ben, je pense que la base du resto, c'est vraiment thaï et chinois, taïwanais. Mais on n'a pas peur d'aller goûter autre part, donc laotien, vietnamien, même japonais ou coréen. Donc on essaye vraiment de les goûter à gauche, à droite et de prendre le plus possible partout pour expérimenter et puis voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis à ce moment-là, on regarde ce qui marche bien, on teste et voilà.
De la même manière, en fait, qu'on ne se limite pas à des recettes spécifiques ou qu'on ne se limite pas à des produits spécifiques parce que c'est ce qu'on doit faire, mais parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Donc effectivement, on a toujours cette base de Chine et Thaïlande, mais on a envie de s'ouvrir à toutes les possibilités. Et du coup, on ne va pas s'empêcher, par exemple, d'utiliser, je ne sais pas, du gochujang, une pâte de fermentée coréenne. On ne va pas dire non, on l'utilise pas parce que c'est coréen.
Et pour faire donc tous ces essais qui marchent, j'imagine que derrière, il doit aussi de temps en temps y avoir des ratés, des ingrédients qui finalement ne vont pas si bien avec tel type de recette plus traditionnelle ou...
Personnellement, en tout cas, chez moi, j'en ai pas mal. Enfin, c'est ma copine qui goûte du coup et qui les subit. Mais ouais, des fois, il y a des choses où l'idée paraît bien. Et forcément, c'est dans la bouche, c'est pas ouf. Ça arrive.
Tu as des exemples?
Bah, j'ai essayé la dernière fois de cuisiner. Ouais, c'était pas tant une association qu'un produit, des nouilles de tapioca.
Ouais.
Qui sont, c'est un produit qui m'intéresse toujours, que j'ai vraiment envie d'utiliser, mais qui est extraordinairement gluant, qui rend beaucoup d'amidon. Et j'ai voulu faire une soupe avec ça. Et en gros, je me suis retrouvé avec une galette de 10 kilos, ouais, informe. Donc ouais, c'est des choses qui...
Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc l'état d'esprit rock'n'roll que vous revendiquez. Et il y a aussi le fait d'être à quatre mains. Donc ça, forcément, en plus de l'originalité et la créativité, il y a le dialogue entre vous deux.
Ouais, je pense que c'est super intéressant parce que voilà, toi, tu as déjà pas mal d'expérience en cuisine chinoise, vu que tu as vécu 6 mois en Chine. Moi, j'ai fait des gastro pendant 6 ans, donc j'ai pas mal d'expérience technique. Et je pense que les deux ensemble, ça fait vraiment un duo qui peut vraiment bien marcher et qui va bien marcher, je pense.
Et bah, c'est intéressant parce qu'effectivement, au lieu d'avoir un seul cerveau qui travaille sur le plat, il y en a deux. Et l'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une recette, on va être forcé d'accepter de la remettre en question. Et bon, peut-être que pour l'ego, parfois, ça peut être difficile, soit. Mais par contre, clairement, pour la cuisine... Pour la cuisine, pour le travail, c'est hyper intéressant.
Quel conseil vous pourriez donner à des gens qui vont nous écouter, auditeurs et auditrices, pour être un peu plus créatifs en cuisine? Est-ce que c'est bien de commencer par changer un peu des condiments? Est-ce que c'est bien de commencer par prendre une recette vraiment classique et d'ajouter un truc ou remplacer un légume?
Aller vers des choses qu'on aime, des produits qu'on aime, des techniques qu'on aime. Et il faut pas avoir peur de la simplicité, parce que très souvent, on a cette idée que compliqué, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a des techniques, en cuisine française, par exemple, c'est très symptomatique, il y a des techniques hyper compliquées qui ont des rendus excellents. Mais parfois, juste une coupe simple avec deux légumes qui se marient bien et un assaisonnement simple mais efficace, ça, c'est très bien. Et je pense qu'en cuisine, il faut vraiment chercher la satisfaction avant toute chose. Et si on cuisine pour soi et sa famille, c'est la satisfaction, ça va être de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres et pas forcément de faire quelque chose de compliqué.
Parfois, l'inventivité aussi, c'est... Oui, c'est vrai, tu parlais des recettes et des techniques compliquées. Parfois, l'inventivité, c'est pas forcément, effectivement, chercher plus compliqué. Ça peut être chercher une simplification. Moi, il y a une recette qui paraît horrible, dit comme ça, mais que j'adore. En fait, je m'inspire d'un plat à la base que j'aime beaucoup, qui est un truc que ma mère fait souvent. Donc, quand elle cuit du riz dans un autocuiseur, elle ajoute à la mi-cuisson des saucisses, par exemple à la citronnelle ou des lapseung, les saucisses chinoises. Elle les pose en fait sur le riz et le gras des saucisses va ensuite fondre et infuser, suinter si on veut dire, mais c'est pas forcément le plus joli verbe, mais infuser le riz et ça va être trop bon. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé ce plat, mais quand j'étais au collège et au lycée, que je revenais des cours et que j'avais envie d'un goût un peu similaire, parfois, ce que je faisais, c'est que je me prenais un bol, je remplissais donc le bol du riz, parce qu'il y avait toujours un autocuiseur de riz plein, et je coupais du saucisson sec, et je plantais ces rondelles de saucisson sec dans le bol. Je le passais quelques minutes au micro-ondes, et après, j'obtenais un peu un truc similaire à ce plat qu'elle prépare. Et de temps en temps, même, je rajoutais de la ciboulette et du porc séché, quoi. Et ça a l'air ignoble comme recette, mais c'est un truc... Pour moi, c'était mon interprétation aussi de quelque chose de plus conventionnel. Quoi.
Ouais, moi, je pense que ça, c'est un très bon exemple de la manière dont la cuisine devrait fonctionner. Donc, on a eu une bonne expérience culinaire, qu'il y ait un souvenir, qu'il y ait un plaisir du palais. Et ensuite, on essaie de retrouver comment retrouver ce plaisir. Et je pense que la cuisine, finalement, c'est aussi très simplement ça, parce qu'on ne peut pas inventer des choses qu'on n'a pas goûtées. Donc, enfin, pour moi, en tout cas.
Oui, donc parfois, inventer des choses, c'est avoir en tête un goût qu'on a un peu un jour connu et essayer de l'atteindre par une nouvelle façon.
Exactement. Enfin, personnellement, par exemple, j'ai vécu un petit peu en Chine. L'ail et le gingembre dans l'huile et sauté avec d'autres ingrédients. Ça, c'est un goût que je ne connaissais pas avant de vivre là-bas. Et maintenant, si je me fais un plat très simple, du riz, tomate, œuf avec gingembre, ail dans l'huile, je retrouve ce goût et voilà, ça rappelle tous ces souvenirs, ça rappelle, etc. Il n'y a aucune technique, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est quelque chose de très simple, mais il y a beaucoup de plaisir.
En plus de leur wonton de boudin noir et de leur poulet frit, qui sont déjà des classiques de la carte, les chefs de Old Boy m'ont expliqué avoir mis au point des noodles à partir d'un légume pas sexy, le céleri rave. Les nouilles sont travaillées à la mandoline, puis sautées avec des champignons, shimeji et shiitake, avant d'être servies avec un bouillon d'hachi, de la bonite séchée et de la crème. Après l'enregistrement, on a continué à parler de passerelles gustatives et Alexander a évoqué son goût pour les ceviches présentés avec des condiments asiatiques. Parce que oui, quand on y réfléchit, un ceviche ne se fait jamais sans citron et qui dit citron peut aussi dire gingembre, ail, coriandre. Et voilà soudain un trait tout tracé entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. C'est d'ailleurs le principe même de la cuisine Nikkei, cette gastronomie qui mélange les influences péruviennes et japonaises. Merci à Fabien, Alexander et Sylvain de nous avoir donné de leur temps pour parler de recettes. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée par Marine Rowe, mixée par Charles de Cilia, programmée par Cassandra de Carvalho et coordinée par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain et avant ça, à lundi aussi pour un mini-épisode Bouffon de la débrouille.